pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà. Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Qu'est-ce qu'un album de jazz? Bien sûr, avant tout, c'est le support d'un avatar plus ou moins nouveau et réussi de cette musique appelée jazz. Mais laissons un moment la musique de côté pour nous intéresser à l'objet, à cet album, dont l'étymologie nous apprend que le mot vient du latin signifiant « blanc ». L'appellation du fameux album « blanc » des Beatles serait donc un pur pléonasme. Quoi qu'il en soit, il existe des albums de photographie, des albums de BD et donc des albums de musique, chansons, pop, rock ou jazz, mais on dit rarement un album de classique. Ce que j'entends moi dans un album, c'est du mystère, de la magie, de l'alchimie, une totale poésie. L'album est un grimoire, un recueil, un nouvel incunable avec ses enluminures, ses étrangetés. Refusons le boîtier tout plastique et favorisons le carton. L'album est aussi donc un livre riche, il a son livret, il est illustré. L'image sur laquelle son titre apparaît et avec lui le nom de celles et ceux qui en jouent la musique est souvent une création remarquable, une œuvre qui retient le regard et charme l'imagination. On parle de visuel et c'est fondamental. L'essentiel est là aussi et les artistes de la musique ne sauraient négliger la transmutation des sons organisés en images, en tableaux, en visions. C'est fondamental et je dis, et quand un album a pour titre Fundamentum, quand on le ramène ainsi puisé aux racines latines, quand l'instrument de cette épiphanie est la noble contrebasse, il faut lui consacrer du temps. Ce temps qui n'est rien et tout à la fois. C'est ce que nous allons faire au cours de cette nouvelle jazz interview sur Art District Radio avec son invité. Bonjour Antoine Brochot.
Bonjour.
Ça va?
Ça va très bien, ça va et vous?
Oui, ça va. Vous êtes sous le choc de cette ouverture linguistique, philologique.
Effectivement, ouais, ça promet, ça promet.
C'est, on va voir, oui. Ouais, voilà. Enfin, l'essentiel, comme je dis, bon, certes, je me suis amusé à parler de l'album et à réagir. C'était la première chose qui m'avait, une des premières choses qui m'avait marqué, on va dire, retenu l'attention, c'était le titre, Fundamentum. Et puis voilà, je suis parti un peu sur cette histoire et sur l'album lui-même aussi en tant qu'objet, on pourra éventuellement en parler, parce que là, on va parler d'un premier album, hein, Antoine, votre premier album, Fundamentum, donc, avec la musique qu'on va découvrir au fur et à mesure de cette émission, de cette jazz interview. Est-ce qu'on peut, Antoine, déjà évoquer rapidement, hein, sans entrer dans tous les détails, mais c'est important quand même, parce que moi aussi j'en ai l'expérience avec des amis, des proches, l'expérience du premier album. D'abord, quand est-ce qu'on prend la décision? Et puis, l'aventure, quoi, hein, parce que c'est toujours plus ou moins, après il y a des facilités éventuelles, mais bon, moi je crois que c'est quand même toujours plus ou moins une aventure. On peut faire un petit historique de cette décision et de cette création de ce premier album, donc Antoine Brochot, Fundamentum.
Moi, j'avais déjà travaillé évidemment en sideman sur un certain nombre d'enregistrements. Uh-huh. J'avais aussi enregistré un petit EP en 2018 avec un trio. Mais là, l'idée, c'était vraiment de mettre en avant de manière voilà, exclusive mes compositions en fait, dans un album. Qui est assez compact, hein, qui est un album de 7 titres, mm-hmm. pour démarrer cette aventure et pour avoir le plaisir d'avoir en fait ces idées qui sont mises en scène par mes collègues. Parce que une grande partie du plaisir en fait, dans la composition, c'est de voir comment les gens avec qui on travaille, en tout cas ici dans une formation de jazz, je dirais, mm-hmm. de voir comment les collègues avec qui on va choisir de travailler vont donner vie en fait, au matériel original et ouais. originel. Donc voilà, je me suis lancé dans cette aventure parce que je sentais tout simplement que c'était une nécessité pour moi et qu'à côté de mon travail de sideman, j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt à développer mes idées personnelles, comme beaucoup d'autres de mes collègues.
Bien sûr, bien sûr. Et donc là, ce sont des compositions qui ont été imaginées au moment de la décision de faire un premier album, où on trouve également des thèmes qui étaient un peu en tête depuis un certain temps, j'imagine aussi, non?
Oui, en fait, il y a bon, La plupart des morceaux, je pense que je les avais composés dans l'année qui précédait l'enregistrement. Il y a peut-être un ou deux morceaux qui étaient un peu plus anciens. Mais c'était quand même plutôt du matériel neuf, parce qu'il y a un renouvellement qui est assez continu, assez constant en fait, dans mon travail d'écriture. Et ça fait que, bon, en plus de ça, faut ajouter que les compositions, enfin, je pense qu'on est assez égaux pour ça, les musiciens-compositeurs, on peut s'en lasser assez vite. Alors, il y en a qui sont plus pérennes que d'autres dans notre esprit, mais c'est-à-dire qu'à un bon moment, on a assez vite envie de passer à autre chose. Il y a vite une idée qui en remplace une autre, et aussi une espèce de peaufinage. Des fois, il y a un phénomène un peu étrange d'ailleurs, c'est que on réécrit des morceaux. Parfois, on est malheureusement assez proche d'idées qu'on avait avant, mais c'est comme si on écrivait une meilleure version, un peu, entre guillemets, de morceaux qui ont des fois un peu les mêmes structures. Donc ça peut donner l'impression de tourner un peu en rond, mais en même temps, je remarque avec le temps qu'il y a vraiment cette idée de peaufiner, de creuser, d'aller en finesse, en fait, avec le matériel qu'on travaille. Maintenant, effectivement, on est tous confrontés à ce petit défi de ne pas tourner en rond, parce qu'on a des choses qui reviennent, qui font aussi notre identité, oui, mais on essaie aussi de se renouveler. Donc voilà, c'est une balance entre les deux.
Oui, bien sûr, oui, l'identité, c'est important, parce qu'en effet, il ne faut pas tourner en rond, ça, je suis bien d'accord, mais il faut, c'est ça, cette identité, elle peut s'imposer presque d'elle-même, où on la travaille, on finit par la créer, et c'est comme ça qu'on peut reconnaître des musiciens, des musiciennes, assez rapidement, en entendant un titre passer, on reconnaît l'ambiance, le son, je ne sais pas, il y a plein de choses qui font que, ah, ça doit être truc, ça doit être machin, et on se trompe pas quand c'est vraiment bien fait. Et ça ne veut pas dire que c'est, comment dire, standardisé, mais il y a un vrai, une vraie création, un vrai travail du son, enfin, voilà, de l'œuvre elle-même. Est-ce qu'il y a, on verra ça plus en détail dans une autre partie de l'émission, bien sûr, plutôt vers la fin, quand on rentrera dans le détail de l'album. Mais tu as déjà, on peut se tutoyer peut-être, Antoine, ça va. Au début, on se vous voit.
Oui, bien sûr.
On n'est pas bien. tu as déjà évoqué un petit peu ça. Le collectif est important pour la, ou alors tes collègues, comme tu dis, viennent et puis, ma foi, ils respectent un travail qui a déjà été fait par toi.
Oui, déjà, on est dans un contexte de jazz et donc d'improvisation à différents degrés. Donc, dans une certaine mesure, la composition, elle va être aussi un prétexte à improviser, un prétexte à créer des situations d'interaction collective, d'expression aussi individuelle dans les solos. Bon, les deux étant toujours en train de s'échanger, en fait. Et donc, pour moi, c'est très important. Et puis, sachant que souvent aussi, on vient avec un matériel qui n'est pas 100% arrangé. C'est-à-dire qu'il y a des idées brutes. Alors après, selon les compositeurs, justement, selon peut-être même les morceaux chez un même compositeur, il va y avoir différents degrés de sophistication dans l'arrangement. Je peux venir avec un matériel extrêmement brut, même peut-être juste une mélodie, si on allait à l'extrême, un bout de mélodie. Là, c'est pas le cas. C'est des compositions où il y a déjà une structure harmonique et une mélodie. Mais l'arrangement, en fait, il dépend énormément de ce que vont en faire les musiciens. Et puis, le travail, par exemple, de mon collègue Mirko Mayo au piano dans mon projet, il est assez important parce que lui, il donne une couleur particulière. Voilà, je lui donne un matériel, les accords, etc. Parfois, si je veux vraiment quelque chose de très précis, je vais écrire vraiment l'accord à la note, quoi. Mais très souvent, avec le chiffrage d'accord, il se passe qu'il y a une marge de manœuvre, en fait, dans l'agencement, par exemple, de l'harmonie. Donc voilà, les musiciens apportent énormément. Et puis, quand on joue avec des musiciens, il y a aussi un choix esthétique, on aime un son, on aime quelque chose. Après, derrière ça, il y a aussi des dimensions humaines, parce que jouer dans un groupe, c'est également aussi avoir une sorte de, comme ça, d'affinité, voire avoir d'amitié souvent. Donc il y a ça aussi. Mais c'est vrai que les musiciens apportent énormément. Donc moi, je suis l'initiateur, en fait, de ce que va devenir après la musique. Voilà, encore une fois, selon les personnes, ça peut être, on peut aller plus ou moins loin avec ça. Je pense qu'il y en a qui prennent peut-être un malin plaisir à venir avec un matériel vraiment minimal.
Oui.
Moi, il y a une structure déjà qui est assez, assez précisément dessinée. Ensuite, voilà, à l'intérieur de ça, il y a une marge de manœuvre. Et puis, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans les solos. Parce que les solos, voilà, il y a une plage. Et puis là, il faut créer du relief, il faut créer des événements. Donc ça, c'est l'apanage de tous les musiciens de jazz.
Bien sûr. Alors, on va très bientôt maintenant écouter un premier titre extrait de l'album. On n'a pas dit, mais on va le redire, bien sûr, parce que c'est quand même important que l'album paraît sur le jeune et dynamique label Art District Music Fundamentum d'Antoine Brochot, l'album. Je dirais juste avant qu'on écoute un premier titre que tu as choisi parmi les sept de l'album, on évoquera aussi dans la partie qui va suivre New York, parce que la scène jazz new-yorkaise, hein, comme on dit, a évidemment une grande importance, en particulier pour pas mal de musiciens et de ta génération aussi, bien sûr. Donc, on développera un petit peu ça. Tu y as fait pas mal de séjours et une partie de l'album sonne un peu quand même new-yorkais. On verra ça plus précisément. On verra ça plus précisément. Et justement, moi, je propose qu'on écoute un des trois titres, le premier que tu as de ces trois que tu as proposé, et qui est directement ancré dans la culture jazz de New York. Ça s'appelle East Village Bounds. Donc, on écoute East Village Bounds de l'album d'Antoine Brochot, notre invité dans cette jazz interview de son album Fundamentum. Et on se retrouve juste après pour parler encore plus en détail de l'album. Pour l'instant, East Village Bounds, Antoine Brochot. Thank you. East Village Bounds, nous venons d'entendre ce titre, l'un des sept qui compose l'album, le premier album de notre invité, le contrebassiste Antoine Brochot, un album qui paraît sur Art District Music, le label de la radio, Art District Radio. Voilà, nous en sommes très fiers, très contents. Nous avons déjà un peu parlé dans la première partie de cette émission des conditions de création de la musique et puis d'un premier album. Là, après avoir écouté ce titre, East Village Bounds, j'aimerais bien, Antoine, qu'on parle justement de ce que tu as pu apprendre, de comment tu t'es imprégné d'une certaine culture jazz de New York, où tu as effectué un certain nombre de séjours, tu as dû jouer avec des musiciens locaux. Quelle importance ça a, et surtout, au-delà de l'importance, qu'est-ce que ça apporte à un musicien comme toi ou à un musicien en général? Est-ce que c'est un peu un pèlerinage presque obligé encore aujourd'hui?
Je sais pas, j'ai pas envie de dire obligé, parce que c'est vrai qu'on a tous notre manière de vivre notre construction musicale. Moi, je suis venu au jazz en écoutant évidemment beaucoup de choses qui viennent d'Amérique du Nord et beaucoup de choses qui viennent de New York. Donc effectivement, pour moi, ça ressemblait un petit peu à une espèce de pèlerinage. J'avais besoin d'aller voir ce bouillonnement et aussi de me rendre compte, de voir, j'ai envie de dire en vrai, en fait, toute cette scène que j'écoutais et que j'écoute toujours à distance et qui reste en fait quand même pour moi l'épicentre de cette musique. Donc pour moi, c'est à chaque fois fascinant d'arriver à New York. Déjà, je pense que pour n'importe qui, c'est une ville assez... Assez fascinante par son énergie intrinsèque. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et en effet, quand je vais là-bas, on dort plus, quoi. C'est les clubs tous les soirs. On voit arriver en jam des gens qu'on écoute, qu'on adule. C'est assez extraordinaire et c'est très, 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 très stimulant. Ça donne aussi beaucoup d'idées. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important, et puis j'ai hâte de pouvoir y retourner. C'est un grand voyage, hein, mais j'ai vraiment hâte de retourner là-bas et de trouver cette stimulation. Après, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est obligatoire de faire comme ça. Je pense qu'il y a des gens qui vivent le jazz, même sans avoir besoin d'aller là-bas. Mais moi, je prends beaucoup, puis je suis beaucoup de ce qui se passe, tout simplement parce que c'est une musique qui me parle, là où à d'autres gens, ça parlera pas. J'ai pas envie de faire de caricature, mais chez la plupart d'artistes aujourd'hui de jazz moderne, ça se complexifie quand même énormément dans les codes, dans les interactions, les polyrythmies, et j'en passe. C'est en fait pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui... potentiellement demanderait de plus en plus de clés de compréhension pour le grand public. Donc c'est pas évident non plus. Mais à côté de ça, il y a aussi un courant qui reprend des codes aussi très populaires de certaines musiques qui tend plus vers la pop ou le hip-hop, aussi dans la scène new-yorkaise. Donc j'ai envie de dire, il y a les deux. Mais c'est vrai que si on écoute des artistes de jazz dans des formations, on va dire, classiques, c'est-à-dire des quartettes, des quintettes, plutôt sur des sons acoustiques, chez certains artistes, on retrouve des complexités qui ça va être difficile de toucher beaucoup de monde avec ça. Donc c'est nous les musiciens, on se pose aussi ces questions-là. Pour moi c'est un bouillonnement vraiment New York incroyable de beaucoup de choses que moi j'adore et qui me touchent tout simplement.
Mm-hmm. Et avec, par exemple, pour revenir à ce titre East Village Bounds, quelle en est la genèse un petit peu là?
En fait, musicalement, le bounce, c'est le rebond en fait. Donc oui. ça s'apparente au swing dans un certain sens et au groove de la musique, quoi, le bounce. Donc voilà, la dernière fois que j'étais à New York, c'est vrai que j'ai redécouvert ce quartier de East Village. Et j'ai aussi, grâce à un collègue qui s'appelle Fabien Marie, un trompettiste qui s'appelle Fabien Marie, que j'ai croisé à New York par hasard, en fait, parce que lui, il a cette démarche d'y aller souvent. Mmh. On s'est croisé au club Mesro, qui est juste à côté du Smalls, hein, c'est le même propriétaire, il me semble. Mmh. On s'est croisé là, puis en fait, il m'a fait découvrir deux clubs qui sont à East Village, mais qui sont plutôt des petits bars, donc pas les clubs qu'on va connaître forcément. Mais où il se passe aussi des choses incroyables. J'ai rencontré le trompettiste Bruce Harris là-bas, qui est un bebopper redoutable, ainsi qu'un autre bar où la jam est tenue par un Français, Renaud Penant par exemple, un batteur français qui est là-bas depuis longtemps. Et voilà, c'est aussi un quartier qui a un charme particulier et que j'ai beaucoup aimé. Et puis moi, quand je suis à New York, je marche jusqu'à plus sentir mes jambes, quoi. Il n'y a plus. Ma tête prend le relais sur mon corps, en fait, quand je suis là-bas, quoi, vraiment. Donc c'est extraordinaire. Je marche, voilà, je traverse des quartiers entiers. En plus, c'est le plan en damier, donc on peut pas trop se perdre. Alors, on peut marcher très, très longtemps comme ça. Donc, j'ai, en fait, voilà, dans ma musique, souvent, il y a des petits clins d'œil comme ça à des choses que, comme tout le monde, comme tous les artistes, que j'ai vécu, des choses qui m'ont marqué, des choses auxquelles je veux rendre hommage dans un sens. Donc ce morceau, c'était East Village Bands. Oui. Et voilà, c'est un morceau qui a des petits accents un petit peu Roy Hargrove quand même. Il y a quelques années, on a été marqué pas mal par le RH Factor de Roy Hargrove. Il y a un tout petit peu de ça dans ce son, ce qui n'est pas forcément le cas des autres titres de l'album, mais... Oui. Donc voilà pour East Village, je pense que je pourrais faire un morceau pour pas mal de quartiers de New York qui m'ont marqué, parce que moi ça m'émerveille quand j'arrive là-bas forcément. Ouais.
Alors justement, tu parlais de Hargrove, il a bien fait un morceau lui sur Strasbourg-Saint-Denis, donc voilà.
La boucle est bouclée.
les quartiers où la musique, les arts en général, même où la vie est très bouillonnante, comme tu dis, forcément c'est inspirant. Et donc pour toi c'était en particulier ici East Village Bounce. C'est vrai que ça sent le club cette musique, même dans son interprétation. Même là dans l'album, dans l'enregistrement, c'est pas un enregistrement live, hein. Peut-être c'est dans des conditions de live, c'est quand même un enregistrement studio, mais ça sent le club. C'est ça qui m'a marqué. Et en effet, on sent bien aussi le comme tu disais, les racines swing, bop, quand même assez toniques. Voilà. Et puis c'est peut-être le morceau de tout l'album que je qualifierais le plus cuivré, parce que il y a le saxo, et sauf grande erreur de auditive de ma part, il y a une trompette, non, où je
démarre. Oui. Voilà, dans l'album, il y a deux interventions d'invités, et puis là, on a invité un trompettiste qui est très actif du coup en Suisse où j'habite actuellement, en Suisse romande, qui s'appelle Shems Bendali, qui est voilà un super trompettiste et un collègue avec qui j'aime bien travailler. J'aime beaucoup ce qu'il propose en général et ce qu'il propose aussi dans son projet personnel. Donc pour moi c'était assez évident de l'inviter à ce moment-là, et on a évolué aussi ensemble dans le même conservatoire qui s'appelle en fait la Haute École de Musique de Lausanne.
Très bien. Chic. Oui, alors, donc là, on a quand même bien évoqué le New York qui te nourrit. Hein, prochain séjour, c'est prévu pour bientôt ou tu en reviens
C'est vrai que je pense assez sérieusement à retourner de l'autre côté de l'Atlantique l'année prochaine. C'est vrai que j'ai enseigné cet été dans un stage où j'ai un peu collaboré avec un autre des professeurs qui est Tony Micheli, qui vient de Philadelphie. Et en fait, on s'est assez bien entendu. Puis voilà, on s'est dit que on essaierait de se croiser là-bas. Donc Philadelphie, New York, c'est pas très loin, voilà, entre les deux. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de se retrouver, de faire un tour à Philadelphie et à New York l'année prochaine. Donc j'ai pas réservé mes billets, mais tout ça est dans un assez assez présent dans un coin de ma tête, donc j'aimerais beaucoup y retourner l'année prochaine, maintenant que un peu l'histoire Covid s'est un petit peu calmée aussi.
C'est vrai, voilà, c'est dans les cartons. Voilà, alors là, East Village Bounce, qui nous a donné l'occasion d'un bon développement, fait partie aussi des titres en anglais, hein, de l'album. Il y a donc East Village Bounce, il y a un autre titre, plus ou moins anglais, c'est Bleen. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais Bleen, peut-être rapidement, si tu peux nous donner une clé pour savoir ce que c'est, Bleen.
Oh, Bleen, c'est un nom un petit peu mystérieux, c'est pas un mot.
D'accord.
Qui existe.
Très bien, j'adore. Parfait, on laisse le mystère. Après, il y a Storms, mais on va en parler plus en détail dans la partie qui va bientôt suivre, là, de ces titres. Autre titre en anglais qu'on va écouter maintenant et qui est un de ceux que tu as choisi pour cette jazz interview sur Art District Radio, c'est Song for Yoko. On en parle juste après. Donc, Song for Yoko, extrait de Fundamentum, l'album, premier album d'Antoine Brochot qui paraît sur Art District Music, et Antoine Brochot, qui est notre invité dans cette jazz interview. Voilà, Song for Yoko.
Thank you.
Song for Yoko, que nous venons d'entendre, l'un des titres choisis par notre invité Antoine Brochot, l'un des titres de son premier album Fundamentum, paru sur Art District Music, et donc sur Art District Radio, cette jazz interview avec lui. Maintenant, nous allons, dans cette dernière, troisième et dernière partie, évoquer aussi un peu plus encore les titres, l'album. On a évoqué dans la première sa conception et aussi un peu sa réalisation. Là, on a donc tout, au début, dans mon ouverture, j'ai un peu brodé, j'ai un peu déliré sur les titres, sur le titre de l'album, qui est aussi le titre d'un des morceaux, hein, Fundamentum. D'où c'est venu cette idée de latiniser un peu, parce que on sait aussi des termes musicaux. Enfin, Preludium. Il y a un prélude, hein, il y a une ouverture, un prologue, un prélude, un vrai prélude qui dure pas très longtemps, qui pose un peu les choses, les climats, donc intitulé Préludium. Donc là, on est aussi, c'est des termes musicaux aussi, hein, il y a toute une musique ancienne qui utilise ces termes latins. Et puis, carrément, le titre d'un des morceaux, d'une des compositions, et le titre de l'album, Fundamentum. L'idée, c'est quoi?
Je vais sûrement vous décevoir, c'est surtout pour des questions. Surtout pour des questions de sonorité, en fait. Après tout, on est musicien, on est sensible à la sonorité. Bon, j'ai remarqué, on a pas mal de pudeur à utiliser des titres français. Alors souvent, on met des titres en anglais. Cette fois-ci, ça allait sur le latin, ça sonnait bien. Et puis voilà, l'idée de Fundamentum derrière ça, c'était aussi l'idée de socle, de fondation, qui fait écho évidemment au fait que ce soit mon premier album original, et aussi à mon rôle en fait dans l'orchestre. La contrebasse, c'est aussi un petit peu la fondation voilà, du groupe quelque part. Donc moi ça me parlait, je trouve que ça sonnait bien, et voilà un peu comment c'est venu Fundamentum au début. Ensuite, bah, plutôt que mettre prélude, j'ai mis préladium, je sais même pas le prononcer moi-même, donc
c'est pas mal.
Je n'assume pas mon titre de toute façon. J'étais je me rappelle très bien, j'étais très médiocre à l'école, donc de toute façon quand on m'a proposé de faire du latin ou du grec ancien, j'ai tout de suite décliné l'offre parce que je me suis dit que ça allait être davantage de problèmes. Donc je suis pas très compétent à ce niveau-là. Mais en fait je regrette. Si aujourd'hui je devais faire le choix, je pense que j'aurais étudié avec plaisir le latin. Ça m'intéresserait beaucoup plus. Mais bon, quand j'étais enfant, c'était plutôt jeux vidéo, pain au chocolat, quoi, et un peu de basse électrique de temps en temps. Voilà, j'aurais dû en faire plus. Mais non, mais voilà. Donc ça, c'était surtout parce que ça sonnait bien. Et puis après, le titre de l'album, c'est lié à cette idée vraiment d'ancrage, en fait. Oui. Et le travail de la peintre qui a fait la pochette, Maria, fait écho à ça avec quelque chose qui évoque des elle en parle mieux que moi, mais qui évoque des éléments terrestres dans la composition qu'elle a faite. On sent qu'il y a de la pierre, il y a de la terre, il y a des espèces de tourbillons comme ça qui évoquent aussi des mouvements dans la mer. Enfin voilà, on est un petit peu trippé avec ça, et il y a quelque chose de très fondamental, en fait.
Absolument, ouais. Alors on revient un petit peu sur Song for Yoko. Bon, moi je connais pas beaucoup de Yoko. Il y a des Yoko, c'est une Yoko que tout le monde connaît, ou c'est une Yoko personnelle, ou c'est
tout le monde ne la connaît pas. Alors les gens souvent me demandent, me demandent si c'est pour Yoko Ono, mais en fait non, Yoko c'est ma compagne, donc c'est un hommage que je lui rends avec ce morceau. Donc voilà, c'est pas Yoko Ono, c'est pas une Yoko aussi connue.
Mais quand même, qui va le devenir grâce à cette chanson.
Peut-être.
Bien sûr, on le souhaite. Oui, alors là, on a entendu. Donc là, on a un piano très présent, très mélodique dès l'ouverture, hein, qui se fait un peu plus insistant, même vers la fin, dans la dernière partie, avec une sorte de bon, j'utilise des termes un peu pas forcément très techniques musicalement, mais une sorte de gimmick rythmique qui pose comme ça toute la dernière partie. C'est une très belle balade. Cette chanson pour Yoko, ce song for Yoko. Je reviens un petit peu le titre lui-même, la composition Fundamentum. J'ai trouvé, moi, qu'on était, alors c'est vrai que la pochette peut faire un peu penser à ça aussi. J'espère que l'équipe d'Art District va pas m'en vouloir. C'est un petit côté ECM. Avec déjà la pochette. Et puis, je trouve que globalement, musicalement, il y a un peu des accents à la Garbarek, un peu dans la, donc, moi, j'ai ressenti ça comme ça, hein. C'est un peu de, après, chacun avec sa culture personnelle. Le saxo, déjà, est très présent, hein, dans chaque titre, globalement. Mais là, De façon générale, on peut dire que le chant lui est confié, hein, ce qu'on peut appeler le chant dans ses compositions. Et puis, il y a toujours des thèmes assez forts, hein, qui chantent bien. Et là, dans ce Fundamentum, le titre, la composition, ce saxo prend toute une belle ampleur. On rappelle qui joue le saxophone
Oui, bien sûr. Faut rappeler, c'est très important de rappeler les musiciens qui ont donné la couleur à cet album aussi. Là, au saxophone ténor, c'est Basil Rosselet. C'est le seul vrai Suisse de l'album, même si on est tous basés plutôt autour de Lausanne.
Vous êtes des exilés fiscaux déjà.
Ouais, c'est ça. Bah, chez les musiciens, c'est connu. Tous les musiciens de jazz ont leur lingot d'or à la banque cantonale de Genève.
En tout cas, oui. Alors lui, c'est le vrai Suisse, quoi.
lui, il est né à Lausanne. C'est vrai que Nathan van den Bulk, qui est le batteur, il habite ici. Il est pas loin de chez moi, mais il est originaire de Nantes. Mirko au piano, il a toujours vécu en Suisse, mais il est d'origine italienne. Vous le savez peut-être pas, mais en Suisse, le droit du sol n'existe pas. Donc en fait, il a toujours vécu là, il a tout fait ici, mais il a un permis C et il n'est pas suisse, même s'il était ici. Donc voilà, non.
On a oublié personne. On a déjà évoqué le trompettiste.
Voilà, Shems, qui est lui, il vient de Évian, donc ça fait partie de ces gens qui sont venus de l'autre côté de la rive.
Oui,
voilà.
Ah, oui. C'est presque suisse.
Et enfin, effectivement, par rapport à cette équipe sur cet album, il reste la chanteuse Sylvie Klein, qui est qui vient de Hollande et qui nous a rejoint pour un morceau pareil.
Voilà. Storms, oui, on est. Alors moi, j'étais surpris quand j'ai écouté Storms, parce que je m'attendais, vu son titre, hein. Alors il y a un deuxième sens que je connais pas, mais Storms, c'est des tempêtes, normalement. Hein. Donc c'est quand même un morceau très calme, on va dire. C'est une dédicace aux tempêtes, mais très très cool. Voilà, ça commence très calme, ça continue plutôt cool. La voix féminine donc vient napper tout ça très très joliment. Voilà, ça m'a fait un peu penser parce que ça me rappelait des climats aussi new-yorkais. Moi, je connais un petit peu, tu connais peut-être aussi Guilhem Flouza, le batteur, qui est aussi imprégné de culture new-yorkaise où il va souvent composer son précédent album. Et j'entendais un peu comme Becca Stevens quand elle fait des featuring, comme on dit, dans des albums. Ça fait un peu penser à ça, oui. Voilà. Storms, donc. Et puis, je crois qu'on a. On n'a pas oublié d'évoquer la plupart des sept titres qui composent Fundamentum, l'album, Antoine Brochot. Évidemment, celui qu'on va écouter pour se dire au revoir dans quelques instants, qui lui, alors là, il y a une très belle présence dès le début et chantante, qui là m'a fait penser un peu à parce qu'on en a parlé il y a peu de temps sur la radio. Avishai Cohen, qui a une façon lui aussi de balancer, de poser ses compositions, ses thèmes avec une présence à la fois évidemment rythmique de la contrebasse, mais très très mélodique, très chantante quand même. Hein. Tu es d'accord ou tu poses des limites à ce que je dis, hein, c'est tout à fait possible. Moi, c'est ce que ça m'a évoqué tout de suite. Mais le titre, donc If Not Now, Then When, qu'on va écouter dans quelques instants pour se dire au revoir, ça m'a vraiment fait penser à ça.
Oui, c'est pas la première fois qu'on me le dit. En fait, je pense que c'est pour une raison même avant tout technique, c'est que quand le thème commence avec en fait une ligne de basse qui est doublée avec la main gauche du piano, et ça c'est quelque chose qu'a beaucoup 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 exploité Avishai Cohen, qui l'a même rendu populaire auprès vraiment du grand public, qui a une couleur très particulière, qui est un timbre très efficace aussi. Donc je pense que c'est à mon avis c'est pour ça avant tout que ça fait penser à, peut-être pour d'autres raisons, mais ça fait penser à Avishai Cohen à mon avis, parce que cette basse qui est doublée par la main gauche du piano, il y a vraiment voilà cette identité là qui a été qui était voilà ce principe qui a été très utilisé dans les musiques d'Avishai Cohen. Donc If Not Now Then When, le titre évoque aussi petite anecdote, évoque aussi un slogan qu'on a retrouvé beaucoup dans des manifestations pour le climat en particulier. Donc If Not Now Then When, si pas maintenant quand, effectivement, qui invite à passer à l'action. J'ai trouvé aussi, il y a aussi à nouveau un double clin d'œil, donc je sais pas, c'est les deux yeux fermés en même temps comme ça. Non, il y a un double clin d'œil. Effectivement, si pas maintenant, quand, ça évoque aussi mon travail de compositeur et le fait de lancer un nouvel album. Et aussi une sensibilité à un problème existentiel qu'on a et qui est sur la table maintenant de plus en plus régulièrement. Donc voilà, c'est quelque chose qui était pas mal dans mon actualité personnelle et dans l'actualité, j'ai envie de dire, mondiale. Voilà, donc... Donc voilà pour le titre du morceau en tout cas.
Ouais. On va l'écouter dans quelques instants pour nous dire au revoir. Pour terminer cette jazz interview, Antoine Brochot. Donc on n'a pas évoqué tout l'historique en détail, mais tu as eu comme tu parlais de ton groupe, tu as eu un trio parisien, un premier trio. Tu avais fait donc, ça tu l'avais évoqué, un EP comme on dit, avec au Sunset Sunside. Où tu joueras dans quelques temps pour le concert, le fameux concert de sortie. C'est le 22, c'est ça? Non, c'est quand, le 22 septembre?
Le 21 septembre.
Le 21, pardon. Le 21 septembre, donc, au Sunside, pour le concert de sortie de Fundamentum. Et après, tu avais eu un premier quintet avec lequel tu avais joué à Saint-Germain-des-Prés, Jazz à Saint-Germain-des-Prés, ouais. Le fameux... C'est juste. Tremplin, très bon. Et voilà. Et donc, c'est avec cette nouvelle formation dont on a parlé tout à l'heure que tu as enregistré ce premier album, Fundamentum, et dont tu joues la musique maintenant, à partir de maintenant, très régulièrement, qu'on va entendre souvent sur Art District Radio, qu'on a pu entendre au festival de Jazz District à la fondation Good Planet. Et puis donc surtout, et on invite tout le monde à se précipiter là-bas le 21 au Sunset Sunside, et puis aussi bien sûr se procurer la musique, se procurer l'album Fundamentum, car c'est toujours important, le live bien entendu, mais aussi acquérir légalement la musique elle-même. Voilà, Antoine, donc on va se dire au revoir. Longue vie à ta musique et à cet album. Merci. En particulier. On écoute donc, pour se dire au revoir, If Not Now,
Then When.
Voilà. Et puis, on se dit au revoir, à bientôt, Antoine Brochot,
Merci.
Pour les nouvelles et les prochaines aventures musicales. Voilà. À bientôt. Merci beaucoup pour cette jazz interview.
Merci. Ciao. À bientôt.